n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une revue de presse de la philosophie dans la presse. Journaux, revues, tribunes, quelle place est donnée à cette discipline et à ses acteurs? Quelle place les philosophes ont-ils pris d'eux-mêmes dans la presse? Entre temps long de la réflexion et temps court de la parution, espace de la pensée et espace des médias, exigence des lecteurs philosophes et nécessité de toucher le plus grand nombre, comment les parutions philosophiques périodiques permettent-elles d'envisager une autre manière d'articuler pensée et actualité?
Ce qui m'intéresse actuellement, c'est que par la politique, si vous voulez, je suis arrivé avec des camarades à essayer de faire un quotidien. Je ne pense pas que notre quotidien doive être simplement, avec les autres quotidiens, dans un rapport de concurrence. C'est vraiment un rapport de lutte sociale, parce que nous ne concevons pas l'information comme la plupart des quotidiens français la conservent.
Fondée sous la protection de Jean-Paul Sartre en 1973, Libération est un des exemples les plus connus de philosophie dans la presse. Mais pas n'importe quelle presse. La presse telle qu'on la définit habituellement, c'est-à-dire comme l'ensemble des journaux ou magazines, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, et dans lesquels on peut lire les nouvelles nationales et internationales, de la politique au sport, en passant par l'économie. Concrètement, que peut-on alors attendre d'un philosophe dans cet univers ? Eh bien concrètement, on n'attend pas de lui un résumé de l'être et le néant, mais plutôt une approche philosophique d'un phénomène d'actualité, d'un problème politique ou économique, ce qui est précisément le cas des pages idées que l'on trouve dans presque tous les journaux et qui s'affichent comme des espaces d'analyse et de tribunes de philosophes. Pourtant, quand Sartre prend part à la fondation de Libération, il a une ambition plus grande que seulement celle d'introduire la philosophie dans la presse. Il veut proposer un quotidien qui dépasse les contraintes des médias, pression idéologique et financière notamment. Il veut, autrement dit, non pas adapter sa pensée à la presse, à sa temporalité, sa structure, ses conditions matérielles, mais adapter la presse à sa philosophie.
La construction d'un espace public, d'une publicité, comme on dit maintenant, mais non pas au sens de la pub, si vous voulez, mais au sens d'un espace de discussion et notre tâche première. Ce n'est pas le problème d'être de droite, de gauche, socialiste ou antisocialiste, mais c'est de vivre aussi près que possible de la libre discussion, donc d'un espace d'argumentation et donc d'une certaine rationalité de la parole publique.
Libération est un exemple de la philosophie qui se fraye un chemin parmi les journaux. Mais qui veut plus que ça? Qui veut donner toute la place à la philosophie? Et d'une certaine manière, c'est déjà ce que Sartre avait voulu faire avec sa revue Les Temps modernes, créée en 1945 avec Simone de Beauvoir et qui paraît encore aujourd'hui chez Gallimard. Après la presse traditionnelle, on touche ici à un autre type de périodique, entre journaux et livres, les revues, où la philosophie ici ne se fraye pas un chemin, mais constitue la ligne éditoriale. C'est dans cette catégorie de périodiques publiés par des maisons d'édition et non par des groupes de presse, que la philosophie explose. Les Temps modernes donc, mais aussi la revue Cité, fondée par Roger Caillois, et Diogène, que l'on trouve aux éditions PUF, Le Portique, Multitude, les études philosophiques, entre autres, et bien sûr, la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier en 1932 et que l'on a identifié par la suite à Paul Ricoeur. C'est d'ailleurs Paul Ricoeur que l'on vient d'entendre évoquer cette idée d'un espace public créé grâce à la discussion et que permet ce type de revue philosophique. Mais voilà, comment créer cet espace public par la philosophie, pointue, technique, en touchant le maximum de public?
Si pour une raison donnée, vous deviez abandonner votre profession, vers quelle sphère d'activité vous orienteriez-vous?
Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais. Je suis bibliothécaire de profession, j'écris des livres. Je peux évidemment changer les bibliothèques pour une autre occupation.
Vous dirigez aussi une revue.
Je dirige une revue.
Alors est-ce que si vous n'étiez pas écrivain vous-même, vous aimeriez diriger probablement les autres ou non?
Oh, sûrement pas.
Sûrement pas.
Comment rendre public à tous la philosophie tout en créant grâce à celle-ci un nouvel espace public? De Sartre à Caillois, en passant par Ricoeur, mais aussi Georges Bataille, fondateur de la revue Critique que l'on vient d'entendre, c'est bien le défi. Et pour finir, il faut citer ces périodiques qui misent ainsi sur l'ouverture. Philosophie Magazine, qui sous la forme d'un mensuel classique met la pensée à la portée de tous. Et puis aussi une belle revue comme Opium, qui à chacun de ses numéros donne la parole sur un thème à un jeune chercheur auteur et un artiste. Et justement, je recommande de lire le dernier numéro d'Opium qui est consacré au très beau thème de la nuit. Et puis vous pouvez aussi lire la revue Critique dont le dernier numéro paru porte sur Claude Lanzmann. Et puis Les Temps modernes, le dernier numéro est paru Démumé. Et puis évidemment, il y a toujours Libération.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.